Dans l'actualité des idées aujourd'hui, qu'est-ce qui se cache derrière le logo en forme de sourire dynamique d'Amazon ? Cette firme offre le cadre idéal pour comprendre les États-Unis et ce qu'ils sont en train de devenir, étant donné la kyrielle de force contemporaine qu'elle représente et qu'elle aide à décrypter. Voilà pour cet ouvrage enquête, cet ouvrage manifeste de notre invité. Il est journaliste star du New Yorker, ex du Washington Post, racheté depuis par Jeff Bezos. Alex McGillis publie aujourd'hui Le système Amazon, une histoire de notre futur aux éditions du Sous-Sol. Un livre enquête qui révèle une entreprise tentaculaire des entrepôts aux quartiers généraux de Seattle à Washington. Il nous raconte dans ce livre aussi et surtout la montée en puissance de l'entreprise de Jeff Bezos et sa mainmise sur l'Amérique, un système que l'on aurait tort de sous-estimer. Bonjour à vous, Alex McGillis.
Bonjour.
Bonjour, pardon pour le retard. Bienvenue à vous autour de cette grande table et bonjour à votre voix française, Michel Slotowski.
Bonjour.
Bonjour. Votre livre, Alex McGillis, j'ai vérifié, on peut le commander en un clic en ce moment sur Amazon. Avec ce bandeau français, comment Amazon a ravagé l'Amérique et s'apprête à détruire notre monde. Amazon ne vous censure pas, c'est déjà ça. Et c'est de bonne guerre ?
No, they are not censoring me.
Non, non, ils ne me censurent pas. Ils ont envoyé une lettre très ferme attaquant le livre, mais ils ne me censurent pas.
Il y a des poursuites alors sur ce livre judiciaire aux États-Unis.
Non, 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 il n'y a pas de poursuite judiciaire du tout. J'ai parlé avec eux pendant que je travaillais sur ce livre. Et ils ont envoyé une lettre au New York Times en critiquant le livre, mais ils n'ont lancé aucune action judiciaire.
Parce que c'est un livre extrêmement bien documenté, Alex McGillis. Vous avez enquêté pendant longtemps sur ce système Amazon, sur le succès, la réussite, l'expansion incroyable de cette entreprise, de ce géant de l'e-commerce américain. Mais revenons-en juste d'abord à aujourd'hui, avant de comprendre le projet. Printemps 2020, en plein confinement, vous décidez d'aller voir vos parents. L'autoroute est déserte, les panneaux invitent à sauver des vies, à rester chez vous. Seuls roulent des camions, et vous ? Pour les camions, la plupart sont d'Amazon. J'en comptais 2 douzaines au cours des 160 kilomètres qui séparent Baltimore du sud du New Jersey. Si nous étions en guerre contre le coronavirus, écrivez-vous, alors c'est Amazon qui transportait nos troupes. Les magasins fermés, les déplacements restreints, partout dans le monde, Alex McGillis, on a beaucoup commandé et acheté en ligne durant toute cette période pandémique. À vue d'œil, Amazon s'en sort grand gagnant des confinements successifs, vous confirmez, et même à un point dont on n'a même pas idée.
Oui, tout à fait. C'est difficile d'en dire trop à quel point Amazon est devenu cette année passée aux États-Unis. Ses ventes ont augmenté de 40%. Ils ont eu plus de 400 000 travailleurs supplémentaires. C'est le second employeur aux États-Unis après Walmart. Ils ont plus de 50% en plus d'entrepôts pour stocker leurs produits. Et la fortune de Jeff Bezos a augmenté de 58 milliards de dollars en un an. Ils étaient déjà si énormes, si puissants, et l'année précédente, ils sont devenus encore plus puissants, parce que tellement d'Américains ont choisi d'utiliser cette vie à un clic près qui est promue par Amazon.
Voilà, et il suffit de quelques chiffres, pas beaucoup, pour comprendre qui sont les grands gagnants de cet épisode pandémique. À la fin mai, racontez-vous, les 5 plus grosses firmes du numérique, Apple, Facebook, Microsoft, Amazon et Alphabet, la maison mère de Google, avaient ajouté l'ahurissante somme de 1,7 trillion à leur capital boursière, à leur capitalisation boursière combinée en seulement 2 mois, une augmentation de 43%, ce qui est gigantesque. Amazon, donc, s'en sort bien, très très bien, de cette période pandémique. Vous notez une accélération, mais Amazon allait déjà bien avant tout ça. Quelles sont les tendances que l'on ne voit pas derrière ces chiffres ?
Eh bien, les tendances qu'on ne voit pas derrière ces chiffres sont tout d'abord l'incroyable destruction des anciennes entreprises de détail, ce qu'on appelle briques et mortiers. En fait, Amazon parle de ces emplois qu'elle apporte dans toutes les villes. Ce qu'on ne voit pas, c'est cette perte extraordinaire d'emplois dans le détail, les pertes d'emplois des vendeurs au détail, qui sont devenus la profession la plus détruite, la plus affectée au cours des années écoulées. C'est une des dynamiques que l'on ne voit pas. Et une autre de ces dynamiques, un autre de ces mouvements qu'on ne voit pas, c'est la nature du travail qui est faite dans ces entrepôts. L'incroyable difficulté au cours de ces dernières années, ces emplois ont été beaucoup plus difficiles qu'au cours des années passées, parce que les travailleurs étaient sous stress tellement lourd pour pouvoir mettre en carton tous ces produits. Et donc il y a un turnover, un taux d'attrition énorme dans ces entrepôts, parce que les emplois sont tellement durs et tellement vraiment épuisants.
Voilà, et vous ouvrez justement sur des témoignages hein, de travailleurs aussi de ce géant Amazon. Vous racontez la fragmentation sociale que l'entreprise crée dans le sillon de ses entrepôts qu'elle va implanter un peu partout sur le territoire américain et aujourd'hui dans le monde. On y revient dans quelques instants, mais juste sur ces grandes tendances aussi. Aux États-Unis, un Américain sur deux a un compte Amazon Prime. Qu'est-ce que ça dit des mutations profondes qui sont en cours aujourd'hui, de nos changements d'usage?
Vous savez, le chiffre des abonnés Prime, c'est exceptionnel. Dans les élections qu'on a ici, on a moins de gens qui votent que de gens abonnés à Prime aux États-Unis. Le fait qu'Amazon a réussi à véritablement mettre à profit le désir des Américains pour une gratification immédiate et que cette promesse de livraison en deux jours et maintenant de livraison en un jour, chaque désir peut être exaucé quasiment instantanément sans même avoir à quitter le domicile. Jeff Bezos, eh bien, le New York Times a eu un papier où Jeff Bezos avait dit que les gens sont finalement extrêmement paresseux, par nature. Et c'est la promesse d'Amazon. Elle remplit vos désirs sans que vous ayez à faire rien de plus que ce petit clic sur votre ordinateur. Et ça a révélé quelque chose de déplaisant sur l'état d'esprit des consommateurs aux États-Unis et partout ailleurs dans le monde.
Prendre Amazon comme sujet d'étude pour comprendre le mal-être américain, Alex McGillis, qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille ? Par quoi a commencé cette enquête ?
Mon enquête a débuté pas du tout avec Amazon, mais avec mon inquiétude sur les inégalités entre divers endroits aux États-Unis, l'inégalité régionale qui s'agrandit d'année après année, et c'est véritablement quelque chose que je pourrais appeler le vainqueur rafle toute la mise. Certaines villes, comme celle-là, San Francisco, Los Angeles, qui deviennent de plus en plus un concentré de richesses. Elles deviennent de plus en plus chères. Il est de plus en plus difficile d'y vivre parce qu'il y a tellement de richesses qui y est concentrée. Et on a ces villes-là d'un côté. De l'autre, On a un groupe beaucoup plus important de villes et de gros bourgs qui sont laissés derrière. Et l'écart s'accroît de plus en plus. Et donc cet écart régional crée des distorsions dans notre pays, dans notre politique. Ces distorsions ont joué un rôle tellement important dans l'élection de Donald Trump. Et je voulais enquêter sur cette disparité que je trouve très inquiétante. Et je voulais le regarder à travers la petite fenêtre d'Amazon, pour deux raisons. Parce que Amazon est absolument partout dans le pays. Et ça sert absolument comme un bon fil rouge pour vous amener à faire le pays, pour voir où nous en sommes en tant que société. Mais c'est aussi un bon fil rouge pour raconter l'histoire, parce que Amazon a contribué grandement à ces inégalités régionales. Et la raison pour laquelle on a tellement de concentration de richesses dans le pays, c'est que nous avons une économie qui a cru de façon tellement concentrée dans quelques entreprises, donc toutes ces activités qui avaient autrefois été dispersées à travers tout le pays, sont concentrées dans très peu de mains à travers le pays, comme Google, Facebook, Amazon, et dans ces lieux-là où ils sont concentrés. Et donc il y a cette concentration de prospérité dans une ville comme Seattle.
À chaque crise, Amazon se déploie, se nourrit, grandit, prend de la force. Hein. À sa tête, le richissime Jeff Bezos. Un peu d'histoire avant d'évoquer le futur qu'Amazon nous prépare, ce qui est la promesse de votre livre en enquête, Alex McGillis. Le système Amazon, une histoire de notre futur. L'actuel géant de l'e-commerce est né à Seattle. Vous venez d'évoquer cette ville qui est le cœur de cette entreprise. Elle est née en 1994. Et s'appelle au départ Kadabra.com. On va écouter 3 ans plus tard Jeff Bezos parler de ce marché de l'attention qu'il a souhaité capter. C'est un entretien qui date de 97, au moment de l'entrée en bourse d'Amazon. Jeff Bezos.
L'attention est une marchandise rare de cette fin de XXe siècle. Et l'une des façons de l'attirer, et c'est comme ça qu'on s'y est pris, était de faire quelque chose de nouveau et d'innovant, qui pour la première fois est vraiment de la valeur pour le client. C'est difficile, mais si vous faites cela, les journaux écriront sur ce que vous faites. Les clients en parleront à d'autres clients et vous obtiendrez une grosse communauté de fans par le bouche à oreille, et ça peut vraiment stimuler et accélérer les affaires. Et c'est ce qui s'est passé avec nous. Au cours de la première année d'ouverture d'Amazon.com au public, nous n'avons pas fait de publicité payante et toute notre croissance a été alimentée par le bouche à oreille et l'exposition médiatique. Ce qu'il y a d'incroyable dans tout ça, c'est qu'on est seulement au premier jour, au tout début. Nous avançons dans plein de domaines différents et beaucoup d'autres entreprises en font autant. Et c'est génial de vivre cette fin de XXe siècle. Je pense que dans un millénaire, quand les gens regarderont en arrière, ils diront « Waouh, la fin du XXe siècle !» C'était vraiment le bon moment pour vivre sur cette planète.
Une ville, Seattle, une époque, la fin du XXe siècle, cette décennie 90. Alex McGillis, en quoi ces deux éléments sont essentiels pour comprendre le succès, l'expansion par la suite d'Amazon? Comment cette ville et cette époque ont servi de tremplin pour Jeff Bezos et son projet?
C'est une question très importante. Pourquoi ont-ils choisi Seattle? Et pourquoi ont-ils décidé que ces villes sont des villes gagnantes? Il a choisi Seattle pour deux raisons. Lui-même, il n'avait aucun lien personnel avec Seattle, mais il y est allé pour créer l'entreprise, tout d'abord parce que Microsoft était déjà là-bas à Seattle et il savait qu'il avait tous ses employés avec toutes ses qualités nécessaires qui pourraient construire sa propre entreprise. Et ça montre pourquoi on finit avec ce genre de cluster, ce genre de grappe de prospérité dans une économie technologique. Eh bien, c'est avoir ces employés qualifiés qui soient là, dans desquels on peut choisir les gens et pour créer quelque chose comme la Silicon Valley, par exemple, où on a une prospérité technologique. Et donc, Microsoft était à Seattle et Microsoft Et Amazon aussi voulait y aller pour avoir ses employés. Seconde raison, c'est que c'était très intéressant sur le plan des impôts. Et les entreprises n'avaient pas besoin de mettre une sorte de TVA à la vente. Donc, tous les États où il n'y avait pas de présence physique, Amazon avait choisi de ne pas débuter en Californie, parce que s'il avait fait ça, il aurait dû imposer une sorte de TVA additionnelle importante, comme c'est le cas dans tous les États comme la Californie. Il est allé dans l'État de Washington, Seattle, où il n'avait pas à payer ses impôts. Et donc, dès le début, Amazon, le succès d'Amazon, la réussite d'Amazon a été fondée sur son effort à éviter les impôts. Et ça a continué à travers les années.
C'est le nerf de la guerre, l'impôt, pour l'empire Amazon, ou plutôt le non-paiement des impôts. C'est sur cette question-là, sur ce point-là stratégique que Jeff Bezos a monté sa stratégie commerciale.
Bah oui, ça remonte à ce point, à ce premier pas. Ce premier avantage contre les vendeurs traditionnels. Amazon a eu cette formidable lutte contre les librairies, par exemple. Les librairies devaient imposer une taxe de 6, 7, 8% aux clients. Amazon n'avait pas à le faire. Et donc, ils avaient un avantage compétitif de prix. Mais ce jeu d'imposition a continué à travers les années sous des formes différentes. Amazon au niveau fédéral, national. Donc, Amazon a une grosse réussite en évitant les impôts au point où, il y a 2 ans, l'entreprise a payé 0 $ en taxes nationales, même en ayant eu une année fiscale, enfin une année énorme de bénéfices. Ils sont très très agressifs aussi sur ce plan, en exigeant que des villes, des États, subventionnent leurs taxes locales lorsqu'ils décident d'aller dans une certaine ville, de créer un nouvel entrepôt ou de construire un centre de données pour leurs opérations dans le cloud, dans le nuage. Ils arrivent et disent, écoutez, on veut construire quelque chose chez vous, mais on voudrait que vous, la municipalité, vous nous donniez un allègement d'impôts. On ne veut pas payer tous les impôts. On va daigner venir chez vous, mais on ne veut pas payer les impôts qu'on devrait payer. Et donc, énormément de villes et de régions sont prêtes à leur donner ces allègements d'impôts. Donc, Amazon paye très, très peu d'impôts. Vous avez tous ces camions sur la route où Amazon a ses entrepôts, tous ces centres d'appel là-bas, mais l'entreprise ne paye rien quasiment. Elle ne paye pas sa part d'impôts pour ses services.
Vous racontez notamment que pour choisir la ville où sera installé son deuxième quartier général, Amazon avait à l'époque, en 2017, lancé une sorte de reality show. C'est assez effrayant, comme les méthodes aussi qui sont employées pour mettre en compétition les territoires, pour accueillir Amazon et ses ramifications.
Oui, c'était ce grand spectacle incroyable. C'était vraiment quelque chose d'extravagant, comme un spectacle médiatique. Où allons-nous construire notre deuxième quartier général? Toutes ces différentes villes à travers le pays ont pris du temps et de l'argent pour placer leur offre. 238 villes ont soumissionné pour ce prix, entre guillemets, parce que la promesse était 50 000 emplois bien payés et les investissements. Eh bien, l'entreprise est tellement dominante, tellement importante que la simple décision d'où placer un deuxième quartier général est entourée d'importance exceptionnelle pour le pays entier. Donc il y a eu ce spectacle fou. Où vont-ils construire leur deuxième quartier général? Et à la fin, tout ça a été une plaisanterie, parce qu'ils ont fini par choisir les deux villes les plus évidentes, New York et Washington, la capitale fédérale. qui sont de loin les villes les plus importantes, les plus dominantes de la côte Est. Toutes ces villes de la côte Est qui voulaient se transformer en accueillant le quartier général ont perdu. Les autres villes qui auront pu utiliser cela aussi comme vraiment une façon de booster leur économie, elles ont perdu. Et en fait, il y a eu des résistances à New York, aux allègements fiscaux, et donc ils ne vont qu'à Washington, qui est déjà la zone métropolitaine la plus riche du pays. Et ils ont maintenant 25 000 emplois très très bien payés et des investissements. Et la raison pour laquelle ils ont choisi Washington, pas simplement parce qu'il y a une force de travail hautement éduquée, hautement qualifiée, mais aussi parce que Washington, c'est le siège du gouvernement fédéral, et Amazon sait que son plus grand rival, c'est pas une autre entreprise, mais c'est en fait le gouvernement fédéral et la menace d'intervention du gouvernement. Ils voulaient avoir une présence amicale à Washington.
Voilà comment Amazon a ouvert sa sélection, racontez-vous à tous les prétendants, une sorte de grand reality show national, un bachelor où les villes se disputeraient l'affection d'une entreprise. Et vous racontez, supposez que votre choix d'un nouveau quartier général intéressait suffisamment pour mettre en place une loterie publique, impliquait aussi d'être absolument convaincu de la haute estime dans laquelle était tenue votre entreprise. Une estime capable de dépasser les divisions nationales à la manière d'un champion olympique ou d'une pop star inoffensive, et Amazon de fait avait des raisons de croire qu'il inspirait ce genre de bienveillance générale. Bienveillance jusqu'à Washington, vous venez de l'évoquer, Alex McGillis. Avant d'y revenir, de comprendre aussi les liens qui se sont tissés entre Seattle, premier bureau d'Amazon, jusqu'à Washington, vous racontez l'expansion à des secteurs différents d'Amazon. Il y a eu d'abord le livre, puis il y a eu Amazon Market, Amazon Center, tout un système qui a été mis en place et qui est aujourd'hui au cœur d'une enquête de la Commission européenne. En novembre 2020, Margaret Vestager, vice-présidente exécutive de la Commission européenne chargée du numérique, s'en expliquait. On l'écoute.
Nous sommes arrivés aux conclusions préliminaires que l'utilisation de ces données permet à Amazon de cibler la vente des produits les plus rentables, ce qui marginalise les vendeurs indépendants et limite leur possibilité de croissance. Nous voulons être sûrs que les vendeurs qui n'utilisent pas les services logistiques et de livraison d'Amazon aient aussi la possibilité de rivaliser sur la plateforme d'Amazon. Nous voulons également être sûrs que les vendeurs au détail peuvent se déplacer vers des marchés concurrents sans être coincés dans l'écosystème d'Amazon.
Voilà, là c'est pour l'Europe, mais la situation est bien sûr la même avec ce miroir grossissant que nous offrent les États-Unis, puisque c'est aussi là qu'est née Amazon et qu'elle est toujours basée, centrée aujourd'hui. Quelle est la situation aux États-Unis? Vous parleriez aussi d'un écosystème total?
Elle a véritablement mis le doigt sur le nœud de l'affaire. Le contrôle de la plateforme de vente, où tant d'entre nous vont pour acheter quasiment n'importe quoi au quotidien, Amazon.com, et la compétition aussi sur cette plateforme avec ce qu'on appelle les tiers vendeurs, c'est-à-dire toutes les entreprises qui vendent, qui viennent sur la plateforme Amazon pour vendre leurs produits. Donc, Amazon est un vendeur lui-même qui est en concurrence avec d'autres vendeurs. Il y a tellement de conflits impliqués là-dedans. Et dans le livre, je mets l'accent sur un groupe de petites entreprises, des gens qui vendent au bureau, des fournitures qui vendent du papier, des cartouches d'encre, des agrafeuses, ce genre de choses, à des écoles, des gouvernements locaux, et c'est à El Paso, Texas. Et je décris comment ils arrivent à une telle pression pour pouvoir vendre à travers Amazon, au lieu de vendre directement à leurs clients. Et donc, lorsqu'ils vendent à travers Amazon, ils perdent une grande partie de leurs bénéfices. Et c'est ce qui se passe avec tellement de métiers de l'économie. Tous les vendeurs sentent effectivement l'urgence de vendre sur Amazon parce que c'est là que les clients vont et ils perdent de 15, 20 à 30% de leur, du montant de leur vente au profit d'Amazon. Et toute cette partie de l'activité d'Amazon est très très lucrative pour Amazon. Plus de 60% sur Amazon.com des ventes sont des ventes faites par les vendeurs tiers, alors que Amazon ramasse tout l'argent grâce à cela. C'est un véritable conflit d'intérêts. Et donc, c'est véritablement discuté, débattu au Congrès pour essayer de faire face à ce problème.
Voilà, Amazon, c'est le secteur des grossistes qui l'a complètement chamboulé. C'est aussi une partie du marché des data centers avec Amazon Web Services. C'est aussi la culture avec le cinéma, avec les droits du sport et aujourd'hui l'information avec l'achat du Washington Post pour lequel vous avez travaillé, Alex McGillis. Pourquoi un journal? Pourquoi Jeff Bezos s'est, en 2013, offert l'un des plus prestigieux, je vais y arriver, pardon, journaux américains.
Je suis certain qu'il y a un désir d'aider, d'acheter un journal qui luttait, dû mettre des fonds. Et avec tout cet argent, il a transformé le Washington Post en journal qui soit plus solide et meilleur. C'est une bonne chose. Mais dans le même temps, ça faisait partie de ses efforts de croissance de la présence d'Amazon à Washington. L'entreprise a une telle présence dans la capitale. Il possède ce quotidien. Il a dépensé 35 millions de dollars pour sa propre propriété. Il ouvre un salon pour une salle spécialisée pour des soirées pour les wuzous, si vous voulez, les plus riches et les plus influents. Il essaye d'avoir les contrats les plus importants pour le nuage, pour le cloud, des contrats du gouvernement et des services gouvernementaux. Ça a accru son profil à Washington. Et l'entreprise sait que sa menace la plus importante, c'est le gouvernement fédéral. Et donc Amazon veut avoir une présence, un nid, pour ainsi dire, à Washington, pour pouvoir éviter que le gouvernement lutte contre la domination d'Amazon. Mais l'histoire n'est pas racontée dans les pages du Washington Post.
Ce modèle s'exporte aujourd'hui un peu partout dans le monde et notamment en France. Le premier entrepôt Amazon a été ouvert ici en 2007, c'était dans le Loiret. Un peu partout où Amazon passe, il se présente comme une chance pour l'emploi, une chance aussi pour des territoires en péril. Aujourd'hui, en France, se posent encore différentes questions, à peu près les mêmes que vous pouvez vous poser aussi aux États-Unis. Récemment, dans une tribune parue dans un journal français, le JDD, un appel à sauver nos commerçants, parce qu'Amazon ne paye pas les mêmes taxes que les autres. Amazon lance par exemple aussi des soldes la semaine prochaine, une semaine avant la date réglementaire. Le journal Challenge nous révèle aujourd'hui de son côté le soutien du gouvernement français à l'entreprise de e-commerce, avec une majorité qui s'apprête à préserver Amazon de fortes contraintes de la future loi climat imposée à toutes les autres formes de commerce. Pourquoi, Alex McGillis, les gouvernements ne traitent pas le géant américain du e-commerce en commerçant comme les autres? Pourquoi cette bienveillance?
C'est une question excessivement importante. Je dirais que lorsque moi je regarde ce qui se passe en Europe avec Amazon, je vois que l'Europe prend cette menace beaucoup plus au sérieux. Ici, aux États-Unis, c'est comme si l'Union européenne est beaucoup plus consciente de la menace posée par Amazon et les géants de la technologie. Quand on en arrive aux questions de vie privée, d'impôts, de monopoles, on voit que l'Union européenne prend des actions beaucoup plus conservatrices. Et le fait que la France au moins, certains de ces entrepôts sont syndiqués, c'est une telle différence. Aux États-Unis, aucun entrepôt d'Amazon n'a de syndicat ou n'a de gens syndiqués. Et Amazon a réussi à combattre un entrepôt en Alabama qui voulait installer un syndicat. Et l'année dernière, par exemple, ici, vous avez des travailleurs qui ont plus de pouvoir pour exiger d'avoir plus de temps lors du changement des groupes de travail. Ils ont plus de temps pour ces horaires de changement d'équipe soient payés, pour qu'il y ait moins de bousculade pendant les changements d'équipe. Donc, mais aux États-Unis, on n'a pas du tout de syndicats dans les entrepôts. Donc évidemment, Amazon pèse vraiment très très fort sur la France pour la question des impôts. Mais je vois aussi que les pays européens ont des avantages par rapport à notre situation quand on en vient aux menaces d'Amazon.
Merci beaucoup, Alex McGillis. C'est une histoire de notre futur que vous nous racontez dans ce livre enquête, Le système Amazon, qui paraît aux éditions du Sous-sol, rattaché au Seuil. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Merci. Et merci à merci à votre voix française. Merci Michel Slotowski, à l'équipe aussi de la Grande Table. Pour la Grande Table des idées, Jean Bulot avec Laura Dutèche-Pérez. Pour la Grande Table culture, merci à Henri Leblanc avec Oriane Delacroix, à Valentine Alloin et à Cathy Renaud qui nous ont aidés à préparer cette émission. À la réalisation aujourd'hui, Félix Levaché avec Jacques Hubert à la technique. Très bel après-midi à tous sur France Culture.